Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 3, éruption, chapitre 1, filiation. Keller garda le lit pendant une semaine complète à son retour. L'épuisement musculaire, la cécité partielle, la culpabilité, la terreur se conjuguaient, et après avoir dormi pendant 24 heures, il se réveilla si douloureux qu'il ne put pas se lever. Les blessures qu'il avait reçues lors de l'effondrement de la galerie étaient plus graves qu'il n'y paraissait, et la marche forcée qui les avait suivies les avait encore aggravées. Il fut pansé, soigné, veillé par Eleanor, qui murmurait souvent des paroles apaisantes de sa voix de verbe, qu'il écoutait les yeux mi-clos. Il ne parla presque pas les premiers jours, mais lui ouvrit son esprit, et Eleanor pouvait presque, dans cet abandon, lire en lui comme en un livre ouvert. Artus venait parfois au chevet de son père, sérieux et silencieux, et restait quelques minutes ainsi, puis il obéissait à l'appel muet de ses 3 ans, et disparaissait comme il était apparu, folâtre et imprévisible. Au bout d'une semaine, Keller se sentit plus fort, et put se lever et se déplacer dans la maison, mais il ne sortit pas. Et doucement, sans y prendre garde, il s'installa dans sa convalescence comme dans une tour d'ivoire. « Tu n'as pas envie de sortir ?» lui demanda Eleanor par un clair matin d'automne bleu et frais. « J'ai tout ce qu'il me faut à la maison, » dit-il en souriant. « Je n'ai pas envie d'affronter Albâtre. » Elle était en train de se coiffer et il la regardait amoureusement. « Il faut pourtant reprendre la campagne, » dit-elle. « Elle est perdue d'avance, si tu veux mon avis. » La campagne, qui opposait les idéalistes aux pragmatiques, battait en effet son plein. Les premières élections d'Albâtre auraient lieu dans une lunaison, au solstice d'hiver, et leur importance n'échappait à personne. Tout le pacte social, toute la constitution de la cité, allait dépendre de la personne qui accéderait au pouvoir. À Eleanor, pendant le dernier discours d'Aumont lors du procès, s'était juré de ne plus faillir et de se battre avec toutes ses armes. Elle avait peur des pragmatiques. Elle voyait comme Cassandre la ruine et la désolation se répandre sur sa ville, et elle essayait de toutes ses forces de prévenir le danger. On l'aimait encore parmi les natifs de Basseville, et on l'écoutait un peu. « Il faut aussi organiser l'expédition dans la montagne, » dit-elle. Keller haussa les épaules. « Nous ne pouvons pas faire tout cela, tous les deux, à Eleanor. Il faut une armée, et une armée de hauts citoyens surentraînés. Il faut risquer la vie de chacun des hommes qui se portera volontaire, car il y a de fortes chances pour que personne n'en revienne. Ce n'est pas une petite expédition, c'est une affaire collective. Que veux-tu dire ? Que c'est notre fils qui est là-dessous, mais que, tout seul, nous n'y pouvons rien. Alors notre seule voie d'action est la politique, n'est-ce pas ? Il faut donc faire campagne. » Keller eut un rire tendre, doux amer. « Ça, c'est ton rayon, n'est-ce pas ? Et comme le verbe a été autorisé pour la campagne, tu vas tous les persuader. » Ruben est de première force à ce jeu-là, lui aussi. « Je sais. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas ? Tu penses que c'est perdu d'avance, tu me l'as dit tout à l'heure. » « Quand je suis retournée dans la montagne pour tâcher d'en savoir plus, je savais aussi que c'était perdu d'avance, mais j'y suis allée quand même. Et tu as perdu 2 hommes, et tu as failli mourir. Mais j'y suis allée parce qu'il fallait que j'y aille, et toi, tu dois y aller aussi. » Eleanor le regarda gravement. « Pour notre fils et pour Albâtre, » observa-t-elle simplement. Artus apparut sur le seuil de la chambre, les cheveux ébouriffés. « Et toi, Artus ?» demanda Eleanor. « Que fais-tu aujourd'hui ?»« Moi, je vais rester avec Irène, qui a rendez-vous avec ma petite sœur aujourd'hui. » Eleanor et Keller se regardèrent. « Que dis-tu ?» demanda Keller. « C'est aujourd'hui qu'elle arrive au monde. » Irène était de fait presque à terme, mais l'air docte du petit garçon fit sourire à Eleanor. « Viens me chercher au forum si elle arrive, » lui recommanda-t-elle. « Je t'emmène chez Irène et je me rendrai au forum juste après. » Keller les regarda partir, plein d'amour et d'impuissance. La maison semblait vide sans eux, et il joua quelque temps avec Gros Loup pour tromper sa solitude. Il fit le tour des pièces, vaguement satisfait de la grâce des moulures, des plafonds, de la transparence des faïences et de la douceur des étoffes. Puis il s'assit dans un divan, dans le péristyle, et repensa à la frontière. Il avait l'impression d'avoir été heureux là-bas, vivant dans un mythe simple et rassurant. Il y avait une oppression, de l'injustice, des torts à réparer, et il luttait contre cela. Il avait tout misé dans cette aventure, son amour, sa vie, sa mémoire, Kettel, son enfant, et ses hommes. Et lorsqu'il regardait les conséquences de tout ceci, elles lui paraissaient si complexes, si confuses, qu'il n'y reconnaissait pas son action. L'oppression avait-elle été supprimée? Cela paraissait difficile à dire. En partie, oui, certainement. Mais une nouvelle forme d'oppression se dessinait et menaçait de s'organiser et de prendre corps sous la forme du pragmatisme. Les torts avaient-ils été réparés? La justice était-elle rendue? Le souvenir du procès l'accablait. Là où Aélénor ne voyait qu'une défaite politique, Keller voyait un naufrage personnel. C'est pourquoi elle pouvait continuer la bataille, et lui non. Keller avait accusé le traître et s'était vu accusé en retour. Il avait été traité d'assassin, et l'assassin avait été acquitté. Ce désaveu public, cette ingratitude de la foule, l'avait si profondément déstabilisé qu'il se protégeait maintenant en se détournant volontairement de la chose publique. Aélénor avait l'habitude de tenir tête à la foule. C'est ainsi que son caractère s'était forgé. Elle pouvait exister en étant seule contre tous, en ayant raison seule contre tous. Et c'est aussi pour ça que Keller l'aimait tant. Elle pouvait boire la coupe de l'amertume et l'avaler sans faiblir. Lui l'avait vidée et se retrouvait empoisonné, paralysé. Il repensa aux paroles qu'Aélénor lui avait dites pour lui faire retrouver la mémoire. « La nuit de feu et de sang où tu devais devenir père et où tu es devenu assassin. » Quel père faisait-il à présent? Artus était son plus cher trésor, mais il se sentait à peine son père tant il ressemblait à Aélénor. L'autre fils était sous la montagne, et l'enfant qui devait naître aujourd'hui ne faisait que compliquer le tout. Il échouait à être père et n'était finalement qu'un assassin, comme la foule le lui avait rappelé. « Maître Keller ?» Il tressaillit à la voix du jeune homme qui l'appelait. « Cardonne, entre, c'est ouvert !» Le jeune homme pénétra dans le péristyle, avec une déférence un peu empruntée. « Et ne m'appelle plus maître, veux-tu? C'est absurde, je ne suis maître de rien. » Je venais prendre de vos nouvelles et vous remercier. Sans vous, je serais resté en dessous, moi aussi. » Keller le considéra. Il était touchant, avec ses contusions, dans sa maladresse juvénile, plein d'enthousiasme et de retenue. « Comment me considères-tu, petit? Vous êtes le père que j'aurais aimé avoir, monsieur. » »« On n'a jamais le père qu'on aurait aimé avoir, petit. Moi, c'était Kettel, le père que j'aurais aimé avoir. Tu te souviens de lui? Oui, monsieur. » « J'ai emmené beaucoup d'hommes à la mort, Cardonne. Ça ne te dérange pas ?»« Ils étaient des soldats, monsieur, des volontaires. Ils sont morts pour la liberté. »« Pour toi, pour ta famille, la révolution a vraiment changé quelque chose ?»« Oh oui, monsieur !» s'écria Cardonne. « Et pour vous aussi, regardez votre ville là. »« Et que crois-tu que je devrais faire à présent ?»« Comment ça ? Est-ce que je devrais aller parler au forum ? Est-ce que je devrais retourner tout seul dans la montagne ? Est-ce que je devrais attendre ici ? Sans vouloir vous offenser, monsieur, vous n'avez pas encore très bonne mine. » Keller hocha la tête en souriant. « Vous devriez vous reposer en mangeant des gâteaux de miel et profiter de votre famille, » continua Cardonne timidement. Cette fois, Keller rit de bon cœur. « C'est bien ce que je me disais, fiston, mais je n'étais pas sûr de moi. » Cardonne resta auprès de lui une partie de la matinée et lui rendit un peu de sa bonne humeur. Il y en avait au moins un qui le voyait comme un père glorieux, et cette seule pensée le réconfortait profondément. Après tout, paternité et filiation étaient-elles vraiment une affaire de sang? Pendant ce temps, Aélénor avait rejoint ses troupes au forum. Les deux camps avaient été autorisés à occuper chacun une aile de part et d'autre de la tribune. Les orateurs des deux camps se relayaient, allaient et venaient, se pressaient, sifflaient tant et plus. Le public était au milieu, nombreux, versatiles et bruyants. Les gens venaient passer une heure avant d'aller travailler, ou au passage de leur promenade. Ils prenaient la température du débat, réfléchissaient à deux ou trois arguments lancés à cet instant précis, puis repartaient. Certains, plus acharnés, restaient plusieurs heures de suite et écoutaient les débats contradictoires. Mais dans l'ensemble, les prises de parole étaient décousues. Même si les orateurs se donnaient vaguement la réplique, leur plaidoirie était conçue pour frapper vite et fort, comme si chacune devait être la seule chance de toucher les électeurs. Cet exercice ne convenait pas aux natifs de Hauteville, parce qu'ils avaient été éduqués pour un exercice de la pensée construit et progressif, parce qu'ils avaient horreur des pertes de temps intellectuelles et plus encore des répétitions inutiles. Les bonimenteurs de Villebasse, les commerçants et les actrices de théâtre, eux, habitués à répéter éternellement le même numéro, trouvaient plus facilement le souffle nécessaire à chaque recommencement du discours. Ainsi, la rhétorique de Hauteville se trouvant cassée dans l'œuf par le format même de la prise de parole, les natifs de Basseville se trouvaient avoir leur place parmi les orateurs, malgré le désavantage de ne pas maîtriser le verbe. Un natif de Hauteville plaidait, avec le secours du verbe, et l'instant d'après, un natif de Basseville répétait un lot de formules mille fois répétées, qui agissaient avec la vigueur d'un martèlement sur une enclume, et le public, dont l'attention subissait de nombreuses variations, et qui était fort composite dans sa nature même, répondait à ces diverses sollicitations avec un égal intérêt. À Eleanor prit le discours de l'un de ses adversaires en route. Il s'agissait d'un natif de Basseville qu'elle ne connaissait pas, et qui haranguait la foule avec une énergie farouche. « Car les idées sont dangereuses et vous mènent à la ruine. Pourquoi ? Eh bien, regardez donc ce qui est arrivé aux spiritualistes, malgré toute leur puissance. Ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts ? Parce qu'ils avaient des idées. Parce qu'ils se sont opposés à plus fort qu'eux. Sornard nous a-t-il attaqué ? Non. Il nous a laissés tranquilles, car il savait qu'Albâtre s'occupait de ses affaires, et c'est là comme on doit vivre, mes amis, en s'occupant de ses affaires. Et nos affaires, ce sont des choses pratiques. C'est de travailler, de produire, de gagner des oboles, et de rester à flot. Un navire doit s'occuper de naviguer, mes amis, car s'il s'occupe d'autre chose, il coule. À Eleanor l'écoutait d'une oreille distraite, ce qui suffisait amplement pour comprendre le message. En même temps, elle se préparait à passer elle-même à la tribune et observait les rangs de ses adversaires. Daphnae n'était pas là, mais Ruben, qui s'arrangeait toujours pour passer après elle, se cachait au troisième rang, dans l'ombre. Le public était assez clairsemé, mais attentif en ce début de journée. Lorsque vint son tour, elle prit le temps de porter un regard circulaire, en inspirant profondément, puis sa lumière frontale se mit à briller, de cette belle lumière bleue qui faisait l'admiration de tous et qui paraissait plonger le monde autour d'elle dans un au-delà azuré. Que les serpents mordent ma langue si je suis insincère. Les poissons ne sont-ils pas tranquilles et confiants alors que la nasse de la destinée se referme sur eux? Les fourmis ne vaquent-elles pas dans un ordre immuable à leurs affaires d'insectes? Ne produisent-elles pas, ne sont-elles pas les ouvrières les plus disciplinées alors que l'homme au-dessus de la fourmilière brandit le feu qui les anéantira. Détournez-vous de la folie qui cabriole gaiement au bord des précipices et qui vous entraîne dans sa danse légère et mortelle. Détournez le regard de l'est où rayonne la lumière pour regarder vers l'ouest où point la nuit qui avance avec son armée d'anges de ténèbres et avale la lumière dans sa grande bouche d'ombre. L'inconscience aux yeux bandés n'apporte jamais le salut. Albâtre bat en moi comme un cœur gigantesque, et son initiale de feu brûle ma joue. Je sens ses pulsations affolées, et veux pourtant garder les yeux grands ouverts. La maladie la ronge, et son sang ne charrie plus la fraîcheur et la force. Ses tissus ne se régénèrent pas. Combien de temps résistera-t-elle à cet effondrement de soi qui la guette, alors que son principe vital, son âme, est en train de couler par toutes ses blessures? L'âme d'Albâtre n'est faite ni de sang humain, ni de terre féconde, ni de fer industrieux. L'âme d'Albâtre est et a toujours été la beauté, et avec la nouvelle Albâtre, la beauté a changé de peau. Celle qui étincelait dans nos jardins et dans nos œuvres doit éclater aujourd'hui aussi dans notre corps social. Pas de beauté sans justice, avons-nous crié à la face du ciel, et nous voilà, la tête baignée des larmes de sa pluie amère. La révolution n'a pas été le soubresaut hasardeux d'une histoire aveugle. Elle a été la mue nécessaire et sublime d'une créature qui était encore incomplète et qui doit pouvoir aujourd'hui ouvrir ses ailes immenses. Mais si la beauté qui est sa substance est aujourd'hui piétinée, si nous contenons son âme immortelle dans les carcans odieux du profit et de l'intérêt, Albâtre s'arrêtera au milieu de sa mue, figé pour jamais dans sa métamorphose avortée. Un dragon aux ailes atrophiées, qui ne sait ni marcher ni voler, et dont le feu interne dévorera les entrailles. L'idéal doit guider nos pas et nos cœurs parmi les vicissitudes et l'obscurité. Nous devons refuser le parti facile d'une prospérité prostituée à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. La culture de l'esprit, la sagesse, l'harmonie sociale, le respect humain, la soif de savoir doivent seuls briller dans notre ciel épuré. L'heure approche où nous devrons choisir entre une beauté inflexible et une paix honteuse, mes amis. Et ce jour-là, comme au jour de la Révolution, nous devrons choisir la beauté et nous armer contre les lâchetés qui rongeront nos âmes comme des vers. » Elle avait fini et ses paroles retentirent un moment dans un silence recueilli. Elle seule parvenait à obtenir un silence de cette qualité. Même Ruben, pourtant aussi convaincant qu'elle, ne plongeait pas l'assistance dans cette méditation profonde et sacrée. Eleanor ressentait les fatigues du verbe et maîtrisa un léger étourdissement en allant reprendre place avec son camp. L'ancien chancelier Ruben, qui semblait s'être juré de ne jamais lui laisser le dernier mot et de ne surtout jamais parler le premier, se dirigea avec lenteur vers la tribune. Eleanor l'écouta avec intérêt. Il y avait longtemps que son verbe ne l'affectait plus du tout, et elle supposait qu'il en était de même pour lui. La beauté, cette idole aux yeux vides, cette déesse inférieure assoiffée de passions funestes, cette mendiante qui prostitue ses charmes et ne donne en échange que le leurre infini de l'éternelle déception. La beauté, dans le panthéon immobile des principes, doit être soumise à l'ordre éternel sans lequel elle ne serait pas. L'ordre, père universel, n'a pas enfanté que la beauté, mais la prospérité, la paix, le commerce et la hiérarchie. » L'attention d'Eleanor fut distraite par Artus qui s'était immiscé près d'elle, les yeux ardents et dans une grande agitation. Il était accompagné de Soleia. Eleanor comprit tout de suite qu'Irène était dans les douleurs de l'enfantement et qu'il venait requérir son aide. Elle s'excusa d'un geste protocolaire auprès de l'assistance et suivit les enfants qui avaient grand-peine à contenir leur exaltation et qui sur le chemin l'abreuvèrent de propos décousus et contradictoires concernant des chants, du linge, des cris, de l'eau chaude, du sang, une petite sœur. « Elle est née? Elles vont bien ?» demanda à Eleanor dès qu'elle fut en mesure de placer un mot. « Oui !» La parturiente avait un air las, lointain, assouvi. Eleanor fut frappée de son expression auguste et hésita à lui adresser la parole comme si elle se fût trouvée devant un être de l'au-delà. « Approche, Eleanor, » dit Irène. « Regarde la fille de l'homme auquel tu as lié ton destin. » Eleanor avait suffisamment réfléchi à tout ceci et avait dépassé la rancune et la jalousie qu'elle avait éprouvées au commencement. Elle avait accepté cette naissance et cet épisode de la vie de Keller. Elle jeta les yeux sur la petite créature presque transparente qui sommeillait au sein d'Irène. « Ne devrait-il pas être là ? » demanda-t-elle. « Non, » dit-elle. « Nos chemins se sont croisés, mais ton chemin et le mien sont parallèles. C'est à toi que je veux la confier. »« La confier ? » ?»« L'avenir s'étrécit devant mes pas. Je suis devenue, j'ai joui, j'ai bâti. La cité d'Albâtre a reçu quelque chose en héritage des miens par ma bouche. » Tu as reçu cet héritage plus que tout autre, et j'ai donné la vie. Le devenir, le jouir, le bâtir, vas-tu devenir une donneuse alors que tu n'as pas 20 ans? Il le faut, Eleanor. Nous ne sommes pas maîtres du rythme du temps. Le temps pour moi a filé droit et vite, comme une flèche vers son but. Le tien, Eleanor, coulera longtemps comme un fleuve nourricier. Et ta fille, Daïla? Je veux m'enfermer avec elle pour profiter de chaque moment d'elle et lui donner pour toute sa vie tout l'amour que j'ai en réserve. » Eleanor fut émue par l'expression si pure, si juste, de l'amour maternel. « Mais pourquoi parles-tu de la confier ? Il faudra l'élever comme ta fille, Eleanor, en souvenir des nôtres. Il faudra tout lui transmettre. Mais va-t'en maintenant. L'heure n'est pas venue pour moi de la laisser. » Le bébé, dont les membres veloutés s'agitaient, émit une faible plainte. « Me permets-tu de la bénir avec le verbe ?» demanda à Eleanor. « Bien sûr. » Eleanor caressa le visage de la petite fille, qui ouvrit deux grands yeux d'huile sombre. Eleanor fit luire très doucement sa pierre frontale. « Le monde n'était pas plein avant ta naissance, Daïla. Qu'il te rende la joie que tu lui apportes et que la beauté préside à ton destin. » Irène hocha la tête. « Tu en fais une fille d'Albâtre, » murmura-t-elle. « Qu'il en soit ainsi. » Eleanor, plus touchée qu'elle ne s'y attendait, serra très fort la main d'Artus sur le chemin du retour pour annoncer à Keller cette étrange nouvelle. Au bout de quelques minutes, Artus lui demanda « M'as-tu béni, maman, quand je suis née ?»«
Oui, bien sûr. »«
Et qu'est-ce qui préside à mon destin ?»«
La justice, Artus. »«
As-tu béni Nox ?»«
Nox ?»«
Mon frère. » »«
Non, » dit tristement à Eleanor, « je ne lui ai donné que la vie. »
Mais à quoi va-t-elle servir, sa vie ?
Je ne sais pas, Artus. Je voudrais le savoir.